Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. Bonjour à tous et bonne année à toute l'équipe de radio FM+, Yann, Tom, Aurélien et tous les autres. Nous voilà donc passés en 2026, chères randonneuses, chers randonneurs, je vous souhaite de vivre cette année les plus belles aventures de votre vie, tout en restant en pleine forme bien sûr, et en accomplissant vous et vos proches tous les projets qui vous tiennent à cœur.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
En 2026, poursuivons nos habitudes et débutons notre chronique numéro 17 déjà par les minutes remue-ménage en allant voir les processus induits par la marche chez les autres, qu'ils soient écrivains ou philosophes. Aujourd'hui, Jules Renard, écrivain français connu pour sa littérature qui allie souvent une observation minutieuse de la nature humaine à un style incisif et personnel. Sa prose reflète des éléments de la marche et se concentre sur l'expérience quotidienne. Dans ses écrits, il évoque souvent les promenades à travers la nature utilisées comme un moyen d'évasion et de contemplation. Il crée un lien entre le mouvement physique et le mouvement intérieur, une façon d'explorer ses pensées et ses émotions. Il a aussi écrit dans son journal des descriptions de la campagne française où la marche est à la fois un acte simple et un moyen d'engagement physique avec son environnement. Sa façon d'observer le monde pendant ses marches révèle sa sensibilité, mais aussi un sens de l'humour mordant. Ainsi, il écrivait « Le vrai marcheur n'a pas de plan établi. Il n'a pas l'intention d'arriver. » Il soulignait ainsi l'importance de l'expérience elle-même sur la seule destination. Il disait également « Marcher, c'est un besoin de vivre. » Ou encore « Je me sens vivre quand je marche. » Signifiant ainsi l'importance essentielle de marcher comme une expression de la vie et de la vitalité qu'il ressentait en se déplaçant. Jules Renard a aussi mis en avant le lien intime qui lie la marche et l'expérience sensorielle et la connexion profonde avec l'environnement. Il disait encore « Je marche pour sentir l'odeur de l'herbe. » La marche, c'est le meilleur moyen de sentir le monde. Ces citations traduisent bien sûr l'esprit de Renard sur la marche, et mêlant l'idée de mouvement physique à une expérience introspective.
Vous êtes bien sur Radio FM+, et vous écoutez « Je marche, donc je suis ».
Bien, nouvelle année, nouveau départ, suite autant calamiteux que nous avons subi durant ces fêtes, je fais l'impasse sur le conseil du jour et sur l'état des parcours pour lequel je n'ai pas de nouvelles informations. Non, pour débuter cette nouvelle année, je vais évoquer deux totems de notre environnement montpelliérain, le Pic Saint-Loup et l'Ortus. Jusqu'à dernièrement, je me demandais quel chaos, quelle érosion avait bien pu créer cette vallée entre ces deux sommets. Eh bien, c'est Yolande Gounel, que je reçois dans la deuxième partie de l'émission, qui m'a fourni toutes les clés du problème. En fait, la faille entre le Pic Saint-Loup et l'Ortus, ce n'est pas une faille, mais c'est le résultat d'une histoire géologique alliant tectonique et érosion. Le plus haut des deux est aussi le plus ancien. C'est donc le Pic Saint-Loup qui faisait partie d'un plateau du Jurassique il y a environ 190 millions d'années. À l'époque, il était recouvert par la mer. L'Ortus, lui, il est plus récent. Il date du Crétacé, il y a environ 140 millions d'années. Mais ce qui a mis nos deux géants face à face, c'est en fait un phénomène qui remonte à environ une cinquantaine de millions d'années. C'était lors de la création des Pyrénées, suite à la rencontre titanesque entre la plaque tectonique ibérique et la plaque tectonique européenne. Cela a forcément sacrément remué et il y a eu donc une compression de toute cette région avec une cassure profonde de l'écorce terrestre et une faille allant selon un axe équivalent à l'alignement entre Corconne et Saint-Gély-du-Fesc. Cette cassure a servi de rail lors des mouvements tectoniques, soulevant du coup le soulèvement du Pic Saint-Loup par rapport aux terrains environnants. Sous les énormes pressions, le Pic Saint-Loup s'est plié pour former une bosse, un anticlinal. Mais sous la pression énorme, le pli a fini par casser, ne laissant intacte que la demi-bosse que nous connaissons aujourd'hui. À cette même période, protégé du phénomène par le Pic Saint-Loup, l'Ortus s'est retrouvé en position haute, un synclinal perché suite à des mouvements tectoniques qui ont soulevé la plaque tectonique locale, ce qui a façonné ces pentes douces et ces falaises verticales que l'on observe aujourd'hui. Certes, ce panorama qui s'offre aujourd'hui à nos yeux a ensuite subi une cinquantaine de millions d'années d'érosion, à la fois éolienne, hydrique et acidique, qui ont fini de sculpter ce relief si particulier, fait de calcaire dur, qui ont bien résisté, laissant ces fameuses falaises abruptes et ces plateaux, et au milieu, dans la vallée, les marnes et les terrains de l'Éocène moyen, beaucoup plus tendres, se sont dissous et ont été entraînés par les rivières. Donc, ces deux sommets sont bien distincts, bien qu'ils partagent des origines géologiques similaires liées à leur formation calcaire jurassique, pour le Pic Saint-Loup, le Crétacé, pour l'Ortus, et avec les événements tectoniques qui les ont fait émerger dans tous les sens du terme. Leur érosion et leur biodiversité les rendent non seulement intéressants du point de vue géologique, mais aussi précieux d'un point de vue écologique et récréatif. Les différentes altitudes, 658 mètres pour le Pic Saint-Loup, 511 mètres pour l'Ortus, leurs orientations différemment solarisées ont permis le développement de nombreuses espèces végétales et animales, contribuant ainsi à un écosystème riche. De plus, le climat de cet ensemble a permis le développement de forêts méditerranéennes et de garrigues, ajoutant à leur beauté naturelle et à leur biodiversité.
Je marche, donc je suis, sur Radio FM+.
C'est le moment de la pause musicale. Je vous propose de marcher encore en rythme, cette fois, avec cette chanson de Fats Domino, I'm Walking. Une chanson qui parle du sentiment de joie et d'optimisme qui suit une rupture amoureuse. Dans les paroles, Fats exprime, lui, sa détermination à avancer malgré la douleur en indiquant qu'il continue sa marche et à vivre sa vie. La mélodie entraînante et le rythme de la chanson renforcent ce thème de résilience et d'espoir. I'm walking, hear the need, I'm talking. Find you and me, I'm hoping that you come back to me. I'm lonely as I can be, I'm waiting for your company. Robert Amalric, Radio FM+. La deuxième partie de notre chronique. Donc, pour débuter cette nouvelle année, j'ai choisi de continuer sur le travail que l'on mène sur la géologie, sur l'environnement que l'on rencontre donc, au cours de nos randonnées. Et donc, j'ai demandé à Yolande Gounel de venir nous apporter son savoir. Donc, Yolande, bonjour.
Bonjour, Robert.
Et donc, ça va être un début volcanique, n'est-ce pas ?
Voilà, surtout que lors de la chronique du 18 octobre de « Je marche, donc je suis ».
C'était la numéro 6.
C'était la numéro 6. On avait promis de revenir sur les volcans de l'Hérault. On en avait parlé et on avait dit qu'on ferait une émission dessus. Alors, les volcans de l'Hérault, ils s'inscrivent dans le volcanisme de l'Escandorgue et de tout le Bas-Languedoc, et même jusqu'à l'Auvergne, voire jusqu'en Allemagne. C'est des manifestations de l'étirement de la croûte terrestre qui a affecté l'Europe de l'Ouest et donc qui s'étend du Rhin jusqu'à la Méditerranée. Pourquoi ?
On est sur une période plus récente, là. Ah. Il faut dire qu'on est à 2 millions d'années, un peu moins de 2 millions d'années.
Oui, entre 2 millions d'années, 1 million d'années. C'est la collision entre les plaques africaines et européennes, eurasiennes plutôt, qui a engendré la formation des Alpes. Et donc, qui exerce des forces de compression-collision sur toute la lithosphère européenne. Ouais. Et donc, il y a un étirement de la croûte à cet endroit-là, fragilité, remontée de magma.
Ça bougeait beaucoup et donc également donc, l'apparition de volcans.
Ça s'écarte et il reste la vallée du Rhin, il reste le fossé de la Bresse, et la vallée du Rhône et il y a l'activité volcanique donc en Auvergne et dans le Massif central jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à Agde. Alors nous avons autour de Fontès, nous avons trois volcans. Alors, le plus connu, c'est le Céressou. Il a émergé de la mer qui recouvrait la région. Il était actif il y a 2 millions d'années jusqu'à 1 million d'années. Il restait quand même 1 million d'années actif. Certainement pas tout le temps. Hein. Il devait y avoir des explosions.
C'est un peu particulier parce qu'en fait, il n'y a pas de cratère. C'était un volcan marin, donc il y a eu beaucoup d'érosion. Et ce qu'il reste ne donne pas... Moi, je trouve que ça... On n'a pas... conscience que ça avait pu être un volcan.
Il y a beaucoup d'érosion, donc effectivement les volcans de l'Hérault, on ne les voit pas. Enfin, on les voit un peu, on les voit à Agde, mais le Céressou et puis le volcan des Baumes, on ne les voit pas. Il faut savoir qui sont là. Alors c'est effectivement un cône volcanique surbaissé, très érodé, typique du volcanisme intraplaque, c'est-à-dire au milieu d'une plaque du Massif central, avec une dynamique éruptive certainement modérée, quand même parfois un peu plus explosive, parce qu'il y avait de l'eau. S'il était marin, il y a de l'eau. L'eau et le magma, ça ne va pas ensemble. Ça fait des dégâts. Alors, il y a des coulées de lave, vous les verrez, en allant sur le Céressou, qui est un chemin bien indiqué. Ce sont des pierres bleu-noires, le basalte. Ça, c'est le premier volcan. Le second volcan, il est beaucoup plus difficile à trouver. C'est le volcan des Baumes. C'est un volcan de type strobolien, alors plus explosif, même si c'est encore modéré, ça n'a rien à voir avec les volcans qu'on appelle gris, qui sont très explosifs. Là, on est quand même dans du basalte. Et donc, il y a des coulées de lave. Il y avait un environnement aquatique ou très humide, on le sait, parce qu'il y a des dépôts phréato-magmatiques, c'est-à-dire eau plus magma. Alors celui-là, il doit avoir 1,5 à 1,2.
Il est un peu plus jeune.
Il est un peu plus jeune. Alors aujourd'hui, pour le trouver, c'est pareil, c'est un cône volcanique surbaissé, très érodé, peu visible. Il a une caractéristique, il a une coulée de lave très longue, 8 à 10 km de long, ce qui est pas mal, et qui s'étend vers le sud-est. Alors pour y aller, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? quand on va voir un site géologique, on met son smartphone et on met l'application Infoterre.
Infoterre, le fameux Infoterre avec les fameuses cartes qui sont émises gratuitement d'ailleurs par le BRGM.
Voilà, alors je rappelle que c'est assez compliqué. Il faut appuyer sur les points en haut à gauche, les trois traits, mettre thème, carte géologique imprimée, et après il faut encore mettre carte. Enfin, il y a deux choses à remplir, mettre deux fois carte géologique.
Sachant que ce sont des cartes donc au 1 50 millième. Elles n'ont pas tout à fait la même, je dirais, le même rapport que ce que vous avez l'habitude d'utiliser. En général, les randonneurs utilisent une carte au 1 25 millième.
Oui, alors celles-là, elles ont l'intérêt d'abord de vous dire où vous êtes et aussi de vous donner les renseignements. Parce que si vous cherchez du basalte, eh bien, vous verrez sur votre carte Infoterre, vous aurez une bande bleue avec un B bêta, ça veut dire basalte. Donc ça vous aide à vous diriger. Parce que ce volcan des Baumes, ben, ce n'est pas simple pour le trouver. Alors vous allez à Fontès, vous prenez la D174 et 2 km environ après le village, vous avez une petite route sur votre droite. Et franchement, pour la trouver, il vaut mieux avoir une application. Alors, vous prenez cette petite route et vous vous arrêtez avant un réservoir d'eau. Vous mettez la voiture, vous sortez de la voiture, vous regardez, si vous voulez bien sûr, en direction du littoral. Comme vous êtes un peu en hauteur, vous voyez le littoral, vous voyez le mont Saint-Clair. À 7.
Le fameux mont Saint-Clair de 7, oui.
Voilà, qui n'est pas volcanique, mais ça fait rien. Et puis, vous voyez...
Contrairement à celui d'Agde.
Voilà, alors vous voyez les volcans au-dessus d'Agde, et vous pouvez vous imaginer cette ligne qui vient d'Agde, qui passe sous vos pieds, qui remonte à l'Escandorgue, à l'Auvergne, et jusque dans la forêt noire, avec le fameux Kaiserstuhl, qui est un volcan en Allemagne. Alors... On arrive ensuite dans la zone extérieure du volcan. Vous voyez les coulées de lave, du basalte, donc des scories et des tufs basaltiques. Tufs basaltiques, ça veut dire que c'est pas solide, c'est friable. Vous allez voir des gros blocs sur le bord du chemin à gauche pour empêcher les voitures de passer ou pour limiter le chemin. Vous approchez et vous verrez des incrustations de petites pierres vert jaune. Et puis d'autres vertes plus foncées. Alors pour la première, les vertes jaunes, il s'agit d'olivines. Et pour le second, les vertes plus foncées, de diopside. Alors je vais donner peut-être une petite explication.
Oui, parce que personnellement, je ne suis pas tout à fait...
Au courant des olivines, des diopsides. Bon, alors, une petite explication très rapide et simple. Le manteau supérieur de la Terre est composé de péridotites. Bon, c'est trois familles. Alors, vous avez l'olivine. L'olivine, c'est quoi ? Du magnésium, du fer, de la silice. C'est pas compliqué. Vous avez l'orthopyroxène. C'est pareil, mais avec des compositions différentes et puis des arrangements cristallins différents. Mais c'est toujours du magnésium, du fer et de la silice. Et puis, vous avez le clinopyroxène. Et là, vous rajoutez à l'orthopyroxène du calcium ou du sodium, l'un ou l'autre. Et puis de l'aluminium. Voilà. Donc ça, c'est le clinopyroxène, par contre. Le diopside, c'est un... Ben, c'est ça, c'est... Voilà. Alors, l'olivine étant constituée de fer...
L'olivine, donc, la couleur pour la repérer, il y a plutôt du jaune sur l'olivine.
Eh bien oui, mais c'est plus compliqué que ça. Parce que c'est toujours compliqué en géologie. Vous attendez à voir du jaune-vert et puis en fait, vous voyez du rouge. Alors, vous dites, mais il y a un truc qui ne va pas. Ben si, parce que l'olivine, j'ai dit, c'était du magnésium et du fer.
Voilà.
Et alors, le fer, ben, qu'est-ce qui se passe quand il est à l'air libre?
Il s'oxyde.
Et donc, souvent, l'olivine, elle est rouge, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer. Donc, et là, vous trouverez des pierres de teinte orangée ou rougeâtre, peut-être. Alors, le clinopyroxène, donc, c'est du diopside. Ici, donc, c'est-à-dire du clinopyroxène calcique. Il y a du calcium. Ne sucez pas les cailloux pour avoir du calcium. Il vaut mieux prendre les ampoules que vous donne votre médecin pour avoir de la force pour faire des randos.
Et quelle est la couleur dominante alors là pour
le clinopyroxène, il est plutôt jaune, il est plutôt vert.
Vert.
Ouais. Alors, vous n'en trouverez pas beaucoup, mais vous les verrez sur ces gros blocs parce que les gens ne peuvent pas les emmener, surtout, ils sont incrustés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits bouts? Ce sont des fragments qui sont arrachés au manteau terrestre. Ils viennent de 30 à 70 km de profondeur et ils sont remontés rapidement par le magma. Heureusement, parce que sinon, ils auraient coulé au fond.
Et on ne les aurait pas vus.
Et on ne les verrait pas. Alors, continuez sur le chemin, mais ne suivez pas le chemin, parce que sinon vous allez vous écarter du volcan. Gardez votre application et suivez le bord du cratère. Essayez de rester dans le basalte. Et là, vous allez voir, c'est intéressant parce que vous allez voir des traces de bulles. Sur les pierres, vous allez voir des pierres avec des alvéoles. Elles sont plus légères, d'ailleurs vous pouvez les sous-peser,
oui.
Mais ce n'est pas non plus des pierres ponces.
Voilà.
Hein. Elles ne flottent pas dans l'eau, hein. on le sent bien. Et puis, sur quelques roches, on voit très nettement l'étirement de la lave pendant le refroidissement. C'est assez joli quand on connaît comment ça se passe, quand on sait comment ça se passe. Et puis parfois, on tombe aussi sur un petit caillou blanc qui est manifestement du quartz. Alors, on se demande,
Que vient faire le quartz dans cette
voilà.
coulée ?
Voilà. Alors, probablement, sauf si c'est quelqu'un qui l'a laissé là, mais probablement, c'est l'indice d'une contamination crustale. Puisque la chambre magmatique, elle monte du manteau,
ouais.
Mais le haut de la chambre magmatique, surtout la cheminée, elle est au niveau de la croûte.
Exactement.
La croûte, c'est du granit, c'est du quartz. Donc, on retrouve...
Donc, c'est des éléments de la cheminée qui se seraient disons, dans la...
Dans le magma, dans le tout magma. À fait. Et on termine par le trou d'effet en contrebas du volcan, qui sont des cavités formées par d'importantes bulles de gaz lors de l'éruption. Là, c'est la fin de cette rando du volcan des Baumes. Voilà, alors ça c'est le deuxième volcan et maintenant il reste le troisième site. Alors le troisième site, c'est un peu compliqué parce que vous ne l'avez pas sur les cartes. Vous ne l'avez pas sur les cartes, c'est un domaine privé, c'est une carrière, mais c'est aussi l'un des sites volcaniques les plus singuliers de la région. Il a 1,5 million d'années à peu près. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lac de lave ? Un lac de lave, c'est du magma qui est dégazé, donc de la lave, qui se déverse dans un cratère, mais qui ne peut pas sortir. Et donc, ça forme une vaste étendue liquide, comme un lac, et ça clapote. Il y a des fontaines de lave. C'est très joli, d'ailleurs, quand c'est en activité. Alors, si ce lac, il se solidifie sans se vider au bout de quelques milliers d'années ou de millions d'années, eh bien, il va créer une structure massive de roches volcaniques.
Quelle épaisseur environ ?
Plusieurs mètres, je ne sais pas, plusieurs kilomètres. Ça dépend où est la...
Exactement, parce que comment était la configuration des lieux
avant. Parce que le lac de lave, vous pouvez l'avoir très haut. Vous pouvez l'avoir très bas. Déjà, quand il est en activité, ça se modifie.
Bien sûr.
Et donc, ça peut être très profond, mais ça dépend
de la configuration des lieux.
Alors, le lac de lave fossile du Péché, c'est une curiosité très rare en France. Il y en a un autre dans l'Hérault, on pourra peut-être le visiter ensemble, celui de la Gèbre, mais on y reviendra. Alors, pour l'avoir à Fontès, il faut prendre la première route à droite et faire à un moment se garer, toujours avec votre application. Sinon, ce n'est pas indiqué parce que c'est un site privé exploité en carrière. Il est fermé. Alors, n'essayez pas de rentrer dedans parce que ça pourrait être dangereux. Et puis, si vous arrive ne serait-ce qu'une entorse...
Oui. C'est interdit, de toute façon.
Voilà, vous aurez du mal à expliquer ce que vous faites là. En plus, on peut faire le tour relativement facilement en restant à l'extérieur du périmètre.
Ce qui permet, à certains endroits même, de dominer la zone et d'avoir un bon regard sur ce qui est ce fameux lac.
Voilà, on a vraiment une vue étendue sur le site et on peut voir les colonnes basaltiques. Là, avoir une idée un peu de la distance, de la profondeur de ce lac de lave. Ça ne nous dit pas où était exactement la cheminée, mais enfin, on voit quand même qu'il y a une bonne épaisseur. Et puis, on voit les structures de refroidissement. Ça fait des formes un peu hexagonales, la façon dont la lave s'est refroidit. Voilà pour ces trois volcans de Fontes.
Voilà, une belle histoire, n'est-ce pas, pour débuter l'année. Bonne année à tout le monde, n'est-ce pas?
Et oui.
Et nous allons donc conclure notre 17e chronique Radio FM+, dont Robert Amalric. Pour retrouver nos émissions, vous allez sur notre site www.radiofmplus.org. Vous pourrez récupérer le podcast de cette émission, soit en allant dans le programme, soit en le cherchant dans la programme. Il suffit de taper « Je marche » dans le lien et vous tomberez dessus.
Dans la barre de recherche.
Dans la barre de recherche, bien sûr. Vous pouvez bien sûr interagir, nous faire parvenir des documents, des photos. Si justement vous allez au cours de randonnée sur des sites et si vous vous posez des questions sur certaines pierres que vous trouvez, n'est-ce pas, directement par mail à contact@radiofmplus.org. Yolande, c'est le moment de se séparer avec une chanson que tu as sélectionnée, n'est-ce pas?
Alors c'est I Believe de Asia.
Voilà.
Un groupe de rock déjà un peu ancien.
Donc bonne année à tous, nous séparons en musique. Bye bye, à la semaine prochaine 10h.
Au revoir.